Cette première table ronde, hein, puisque il me semble que là, on a vraiment une façon tout à fait passionnante pour moi de réfléchir à la manière dont la littérature va prendre soin des lecteurs et aussi déplacer le domaine de la lecture de la culture au sens classique à la vie, tout simplement, à l'art de vivre. Hein, c'est une des questions dont on va parler. Comme certains le savent peut-être, je suis au départ spécialiste de l'éthique du care, donc du soin. Alors, on n'aime pas trop le mot anglais, mais le mot de care permet de couvrir aussi beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on peut parler de la lecture comme soin, mais care veut dire aussi s'occuper des gens, améliorer leur vie aussi, hein, et prendre soin, mais prendre soin à la fois aussi moralement, culturellement, physiquement. Je crois que c'est vraiment cet élargissement en fait des effets, des pouvoirs en fait de la lecture, que c'est de ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Et donc c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accueille nos invités. Je suis désolée, je n'en ai même pas pu parler beaucoup de l'ordre de passage, mais je pense que vous n'avez pas de préférence particulière. Je suis très honorée évidemment de vous avoir toutes. Tout est surtout, pas surtout, mais tout est tout et tout, puisqu'on a un seul homme et dans cette table ronde. Mais sa présence est vraiment importante pour moi, puisque ça fait aussi de longues années que Alexandre et moi nous réfléchissons à cette question. Tu as le dans les yeux.
Là, je crois que
vous avez le truc. Hein.
Juste celui. Il faut se décaler parce que
c'est. Ah oui, je vois bien.
En plus, on est devant l'écran. Ouais. Alors là, si on est devant l'écran, il faut vraiment qu'on se décale.
Me mettre devant cet écran-là.
J'ai les yeux extrêmement fragiles, là je suis éblouie pour une demi-heure.
Il va surtout chauffer.
Mais je pense que tout le
monde. Ouais, de toute façon.
Voilà.
Tu as toujours le. Je vais mettre là. Je pense que ce sera mieux.
Entre les deux écrans, c'est parfait.
Ah, entre les deux écrans. Mais si elle n'a pas le. Si elle a pas. Parce que ça, dans les yeux.
Non, entre les deux, elle
a. Tu l'as pas ?
Je pense.
Ok, d'accord, très bien. C'est bon, nous y sommes.
Bon, désolée, hein, vous ne connaissez pas la salle. Et c'est vrai qu'on a à la fois des problèmes d'éclairage, mais aussi des problèmes d'éblouissement et d'écran, puisque l'innovation, c'est d'avoir ces dessins en même temps. Et je trouve ça vraiment, on a une grande chance, mais du coup, ça oblige à avoir deux écrans différents. Donc, de toute façon, je pense qu'on peut suivre l'ordre qu'on avait prévu, même si c'était l'ordre alphabétique, hein, et commencer avec Magali. Magali maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication l'université Marie-Louis Pasteur. Elle a vraiment travaillé de façon très, très intéressante sur... la réception des publics et les expressions aussi d'affect dans la communauté. Je serais très contente de l'entendre parler de ses recherches et puis de voir comment, en fait, elle, comme vous tous, s'intéresse à cet effet de soin, de care de la lecture en tant que telle, et en quoi est-ce que ça modifie, en fait, les approches habituelles de la lecture, et en quoi cela peut expliquer une sorte de renouveau, hein, de vision nouvelle de la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui.
Okay. Je vous laisse commencer. Est-ce que je prends le micro pour le coup?
Merci
à Gare. Ok. On est bon? Non, pas encore. Alors, je vais. Ok.
Là, ça marche. Ok, merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation. Je suis absolument ravie et d'être aussi bien entourée. Merci pour exister la présentation. Combien de temps avons-nous pour le coup? Combien de temps j'ai de parole? Parce qu'il va falloir me cadrer si je dois parler tout de suite ce que j'ai dit.
Très sévèrement cadré. Oui. En fait, vraiment, vous allez chacun exposer vraiment votre conception.
Ok.
Et puis ensuite, on refera un tour de.
Oui, très bien.
Voilà, 5 minutes, c'est très bien qu'on puisse discuter.
Oui, oui, bien sûr. Alors, 5 minutes. Ouais. Comment faire pour être... 6 ouais. Ah, super. Alors là, j'ai déjà une minute de plus. Merci. Donc, je ne vais pas la gâcher en disant autre chose. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au lectorat de romance il y a 26 ans aujourd'hui. Donc, c'est dire l'avance que j'ai sur les personnes qui découvrent la romance et la dark romance aujourd'hui et qui ont un œil plus que... négatif sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de mes recherches, en fait, déjà il y a 25 ans, 24 ans, 23 ans, j'avais un vivier de lectrices de romance que j'ai mis quand même 2 ans à approcher parce que le lectorat de romance, il y a 25 ans, n'avouait jamais lire ce genre en particulier. C'était des lectrices qui se cachaient aisément. Et moi, j'ai mis 2 ans à montrer patte blanche. Aller régulièrement sur un forum à l'époque pour essayer de les interroger. Et la première fois, je leur ai envoyé un petit mail, elles m'ont dit « Encore une énième sociologue qui est là pour montrer à quel point on est des bécasses, passez votre chemin. » Ok, bon, je ne suis pas découragée, j'ai bien fait. Pendant 2 ans, j'ai participé à leur forum sur toutes les questions diverses, parce que moi, je découvrais la romance en même temps que je travaillais sur la romance. J'y suis allée avec des yeux tout neufs à l'époque. Et puis, au bout de 2 ans, elles se sont dit « Ah, finalement, elle n'est pas juste là pour montrer à quel point on est des bécasses, donc on va répondre à ces questions. » Et le premier point qui m'amène à ce sur quoi je travaille aujourd'hui, la notion de soins et de bibliothérapie, qui n'est pas du tout une notion nouvelle, hein, évidemment, c'est une, j'allais dire, de mes lectrices. Alors, elles ne m'appartiennent pas, mais comprenez que j'ai aussi, au bout d'un certain temps, développé une sorte d'affect avec elle, parce que je suis en lien avec certaines personnes depuis 20 ans, qui m'avaient dit « J'ai su que j'étais enceinte avant même de faire le test. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Bah oui, j'ai déjà eu 2 enfants et moi je lisais Arlequin que quand j'étais enceinte. Sinon, j'y arrivais pas, ça me fatiguait, ça me saoulait, je le disais clairement. » Et puis un jour, elle me dit « Bah un jour, j'ai commencé à sortir à vue Arlequin et puis j'en ai lu 3 dans la semaine. » Et là, je me suis dit « Oula !» Et elle, en fait, elle est enceinte. J'ai dit « Bon, c'est amusant, je mets cette anecdote dans un coin de ma tête. » Et petit à petit, bon, ce genre de témoignage arrive régulièrement, mais pas non plus quotidiennement. Et puis, l'avènement de la dark romance, qui existe depuis une dizaine d'années, sauf que les médias on l'a découvert il y a 3 ans. Peut-être que vous avez suivi la panique morale, la panique médiatique qui s'en sont suivies. Hein, c'était quand même... c'est toujours complètement dingue. J'ai commencé à creuser le phénomène parce que je suis invitée dans beaucoup de médiathèques, bibliothèques dans toute la France. Je dois être à 23 déplacements là depuis 2 ans et j'ai déjà des déplacements prévus jusqu'en juin 2027 dans les médiathèques, les bibliothèques. C'est quand même assez... c'est un phénomène qui interroge et il y a peu de gens pour répondre, j'allais dire, à ces questionnements que on dit toujours... On fantasme toujours sur ce que la lecture de romance et de dark romance, en l'occurrence la romantésie, bon, dans une moindre mesure, fait aux filles. On ne se demande jamais ce que les filles en font. Et moi, je suis allée chercher ce qu'elles en faisaient. Et très rapidement, je me suis rendu compte, alors ce n'est pas une généralité qu'on peut prendre complète, mais que la plupart des jeunes filles ados, hein, ou des fois pré-ados, donc je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien de lire de la dark romance, vous le comprenez, hein, j'imagine. Je suis là pour constater ce qui se passe quand elles en lisent avec boulimie, pendant 6 mois, 1 an, en discutant avec leurs copines, mais aussi en étant un peu dans leur coin. Souvent, c'est des jeunes filles qui règlent des choses. Donc j'ai eu beaucoup de cas où elles réglaient harcèlement scolaire. En fait, la dark romance sert de régulateur émotionnel. Et en ça, j'ai des jeunes qui ont maintenant 21, 22 ans qui m'ont dit « Mais moi, quand j'ai commencé à en lire, alors bon, je vous passerai des détails d'horribles choses qui peuvent se passer dans la sphère intrafamiliale », disent « Mais ça m'a aidé à m'en sortir ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec la PHP, avec l'hôpital Robert Debré, je vais travailler avec l'hôpital Neuchâtelois de psychiatrie et avec le CHU de Laval sur cette idée de soin avec la lecture, déjà avec la dark romance, mais je pense qu'on pourra élargir à bien d'autres genres. Je vais m'arrêter là, je pense que je suis dans les 5 minutes peut-être.
Oui, même largement en fait.
C'est vrai.
Mais okay. De toute façon,
on reviendra, hein, c'est très bien que chacun vous présente le parcours qui vous conduit à parler de la lecture comme soin, parce que je crois que c'est très important de voir tout ce qui se fait aujourd'hui comme recherche et comme action pour mettre cela en évidence. J'ai échangé un peu avec Agathe avant, qui se demandait comment elle pouvait parler de soins, alors qu'en réalité, si on l'a invitée, c'est que vraiment tout son travail, et en particulier donc celui de l'Observatoire, hein, donc elle va me parler, hein, je pense, c'est vraiment une façon de s'intéresser aux moyens par la lecture de prendre soin. De prendre soin des personnes, la façon dont la lecture va s'inscrire dans le quotidien des jeunes. Et c'est vraiment vous qui nous avez donné l'idée qu'il faut mettre en avant justement cette capacité, peut-être même grandissante en fait, des jeunes à s'intéresser à la lecture et comment elle peut leur faire du bien. Et donc de ce point de vue là je pense que ça serait très bien que vous nous parliez déjà de ce que vous faites à l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on passe de la lecture à l'écriture aussi dans ce soin des publics. Donc
à ce sujet. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Donc moi je travaille pour l'association Lecture Jeunesse, qui est une association de loi 1901 à but non lucratif qui existe depuis 50 ans. Alors j'étais pas là il y a 50 ans pour vous dire exactement pourquoi l'association a été créée. De base, l'association avait quand même le même ADN, toujours le même ADN qu'il a aujourd'hui. C'était un lieu de lecture publique avec une unité, une structure de recherche accolée à ce lieu de lecture publique qui était une bibliothèque pour les adolescents. Donc ça, c'est aussi l'ADN de l'association et de l'Observatoire. On est focalisé sur le public adolescent, qui est un public complexe. Je pense que vous le connaissez aussi. Et notre association marche toujours pareil avec des projets de terrain directement auprès des professionnels et évidemment des adolescents qui sont surtout des projets d'écriture qui mettent évidemment en place la lecture aussi. Et associé à ces projets de terrain, un observatoire depuis 2017, un observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents. On a rajouté aussi, entre-temps, c'est pas dans le titre, mais il y a aussi le concept de l'oralité. Donc c'est écriture, lecture, oralité chez les adolescents. Et à l'Observatoire, donc moi j'en suis sa responsable, on observe. Donc l'idée, c'est de faire de la veille. On a aussi certains travaux de recherche. Donc là, on est en train de mener un travail de recherche sur la lecture en ruralité. On dévoilera les résultats le 10 novembre lors de notre colloque. Donc je vous invite à noter la date. On fait de la veille sur tous les sujets d'actualité autour de la lecture, l'écriture et l'oralité des adolescents. On a aussi une offre de sensibilisation et de formation. Et dans la sensibilisation, je vais compter notre revue qui s'appelle Lecture Jeune, dont le prochain numéro sera sur la santé mentale des adolescents. Donc on est quand même dans le sujet. Donc on a un numéro de la revue et le hors-série qui sera plutôt tourné sur les actions de bibliothérapie. Et la revue est toujours thématique, donc avant ça on a eu un numéro sur l'intelligence artificielle, on a eu un numéro sur la romance dont Magali a été contributrice. On a aussi des webinaires qui sont gratuits, qui sont aussi thématiques, qui sont généralement en lien avec les sujets de la revue, ont d'autres axes. Et on a un webinaire qui vient de se dérouler début de cette année sur la santé mentale des jeunes. Et le prochain, ce sera sur les tendances de la littérature ado, donc rien à voir, mais je vous invite le 24 mars si ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé par le replay du webinaire sur la santé mentale, qu'on va en discuter, je peux les envoyer à Eupraxie, s'ils peuvent vous le transmettre. Et du coup, ce que ça m'inspire, la lecture comme soin, bah, évidemment, nous, à l'association, on est convaincus que la lecture et l'écriture sont centraux dans le développement des adolescents. Et on est aussi convaincus que la lecture reste présente. Alors, c'est bien qu'on ait abordé, déjà avec Magali, et puis aussi en introduction, les débats et les sujets qui sont très sensationnalistes sur la lecture chez les jeunes, alors que finalement, les jeunes lisent encore énormément, mais on a besoin de comprendre comment ils lisent, ils et elles, et qu'est-ce qu'ils et elles lisent. Et c'est tout le rôle de l'Observatoire. Donc notamment, on se penche sur la question de la romance, en suivant les travaux de Magali et d'autres. Et je mentionnerai très rapidement aussi, parce qu'après je laisse la parole, mais on surveille aussi évidemment de très près tout ce qui est intelligence artificielle, le rôle que peut avoir, en fait, je prends un peu d'avance là sur l'intervention d'Alexandre, mais de plus en plus de jeunes se servent de l'intelligence artificielle comme dialogue pour parler de leur santé mentale. Les réseaux sociaux aussi ont un énorme rôle, et donc on a besoin de comprendre avant de prendre une position vraiment extrêmement arrêtée sur la question. Et l'autre chose qu'on commence à développer aussi, enfin on se penche de plus en plus sur la question, c'est la lecture chez les garçons. Donc là, le contre-pied de la romance, c'est la lecture chez les filles, mais la lecture chez les garçons n'est pas forcément très abordée. Les garçons lisent de manière différente, lisent de manière générale un peu moins que les filles, et on voit aussi en parallèle la montée du masculinisme, principalement chez les jeunes garçons. Donc c'est des axes qu'on va travailler aussi au niveau de l'Observatoire. Voilà.
Vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est absolument passionnant, à la fois l'activité de l'Observatoire, puis les données qui sont toujours vraiment très, très, très surprenantes et éducatives pour nous. Donc, merci beaucoup. On est très heureux aussi d'avoir Juliette Garnier.
Merci.
D'abord, je suis une grande fan, je suis fan de toutes les personnes de la table ronde, qui d'ailleurs ont nourri les travaux de Juliette, mais c'est vrai que Juliette est aussi journaliste à Libération, et vraiment, ses chroniques sont absolument passionnantes sur justement les arts de vivre, les différents modes de vie contemporains. Et parmi donc les objets dont vous avez parlé, c'est aussi les transformations du rapport à la lecture, et en particulier comment ce rapport à la lecture chez les jeunes s'inscrit dans un monde d'écran qu'on n'imagine pas du tout, qui est la lecture. Et grâce à vous, et évidemment aussi à Magali, j'avais appris qu'il y avait par exemple des pages de lecture qui faisaient partie de programmes de santé, de bien-être, et donc comment en fait la lecture peut devenir synonyme de bien-être aussi chez les jeunes aujourd'hui.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Juliette Garnier, je suis journaliste, alors plus à Libération, mais je collabore toujours avec eux. Et effectivement, donc moi je suis ici par le biais de Magali, avec qui on avait collaboré dans un article au sujet donc des pratiques, parce que je suis spécialisée sur le mode de vie.
Je rapproche juste un tout petit peu ton micro.
Très bien, pardon. Je ne suis vraiment pas une habituée des micros et des prises de parole en public, mais je vais m'y essayer. Oui, et donc je suis spécialisée sur le mode de vie et les pratiques, disons, peut-être plus des jeunes, notamment en fait en regardant beaucoup et en faisant beaucoup de veille sur les réseaux. Et la lecture, ça s'insère complètement là-dedans, donc c'est pas du tout mon unique objet d'intérêt ou de recherche, mais quand on m'a parlé du thème, en fait il m'a fallu assez peu de temps pour relier les deux. Et en fait, c'est très visible sur les réseaux sociaux, comme quoi la lecture, c'est vraiment, et de plus en plus, je pense, associé à un soin pour les jeunes. C'est devenu une pratique qui bénéficie. Alors, je pense intuitivement, on peut déjà penser, puisque ça éloigne des écrans très facilement, du coup, ça nous permet de nous recentrer, et on sait que les écrans ne nous donnent pas que du bien. Mais pour plein d'autres choses, et on peut le voir dans plein de tendances qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais qui influence en fait absolument beaucoup de choses de la vie réelle, voilà. Et sans prendre trop d'avance. Bon bah alors très bien, je peux déjà d'ores et déjà aborder par exemple ne serait-ce que la tendance de la clean girl. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête. C'est voilà un idéal qui a été lancé dès début des années 2020 et qui propose plutôt une vie simple, naturelle, par ailleurs très disciplinée, très contrôlée. Mais dans lequel le principe c'est quand même de prendre soin de soi. Bah, une des routines qu'on va trouver, alors effectivement il y a le sport, il y a la skincare, donc qui a influencé aussi beaucoup de nos routines, notamment chez les jeunes générations. Il y a le sport, mais notamment plus des sports doux comme le pilates, et il y a la lecture. Il y a vraiment, il suffit de taper Clean Girl sur Pinterest ou sur TikTok ou sur Instagram pour trouver des livres. Donc voilà, ne serait-ce que ça, c'est une très bonne entrée en matière pour moi pour relier les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, hein. C'est vraiment très, très, très passionnant de voir comment, en effet, la lecture va faire partie de ces programmes-là. Donc, aussi de programmes parfois durs, d'après ce que je comprends, avec beaucoup de la course, mais aussi de la lecture. C'est très riche pour penser la lecture comme soin et care. Donc, je vais maintenant donner la parole à Alexandre. Alors, Alexandre, bien sûr, vous connaissez certainement comme spécialiste de la littérature, mais aussi de l'intelligence artificielle. Mais je voulais dire un mot et remercier d'être là parce que Alexandre est un des premiers qui a vraiment introduit la notion de care dans le rapport à la lecture, à la littérature, hein, dans ses travaux, avec la littérature comme préparation. Hein, et je dois dire que voilà, il a été quand même vraiment pionnier là-dedans, et c'est intéressant aussi de se dire à quel point on a peut-être les choses ont évolué parce que. Il y a quelques années, dire que la littérature c'était du care, ben, ça pouvait susciter quand même l'ironie, comme le care en général, parce que je le sais moi-même. Donc je suis très très reconnaissante, Alexandre, d'avoir lancé ce thème. Et je lui laisse la parole pour parler de ça, mais aussi de ce qu'il fait aujourd'hui pour parler de la lecture.
Merci Sandra, moi je suis fait de la critique et de la théorie littéraire. J'observe le champ de la littérature contemporaine et j'essaye de comprendre les discours qui l'accompagnent. Et j'ai observé depuis 2-3 décennies un tournant dans ce qui est véritablement un déficit en littérature qui cesse d'être un espace à côté du monde et un espace dans lequel on est confronté à une épreuve, à une expérience intérieure, solitaire, mais qui devient un espace de soins, de construction de soi, d'approfondissement. Existentiel, affectif. Et c'est cette mutation qui est très inattendue dans la tradition française où la littérature était un espace où on s'adonnait essentiellement à la forme, au jeu avec le langage que j'essaie d'observer. J'essaie d'observer comment elle participe d'un discours, alors c'est pas l'objet aujourd'hui, hein, sur ce que c'est que l'écriture. Je m'intéresse aux ateliers d'écriture, aux pratiques individuelles, au développement d'un très très grand nombre d'amateurs en matière d'écriture. Et je m'intéresse aussi du côté de la lecture à des phénomènes comme la bibliothérapie, qui a été promue par des gens comme Michel Petit ou Régine Létambelle. J'essaye de comprendre qu'est-ce que ça change à notre manière de choisir un livre dans une librairie, de commenter un livre, de comprendre les livres passés, parce que même Proust peut être utilisé pour faire la bibliothérapie. J'essaye de regarder un petit peu quels sont les mécanismes qu'on invoque. Hein. Est-ce que la littérature, elle vous permet de vous mettre à distance, de retracer différemment votre histoire, de mobiliser des métaphores pour comprendre mieux votre existence. Et puis j'essaye aussi de m'intéresser au discours qui s'y oppose, aux formes de réticence permanente chez certains écrivains qui méprisent cette littérature du soin et de la réparation, en sorte qu'un véritable débat littéraire fondamental se noue hein, pour ceux qui vont défendre d'un côté le style et d'un autre une littérature qui fait du bien. Et cette opposition m'intéresse beaucoup. Elle est centrale à de très nombreuses polémiques aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je fais avec l'idée qu'on va à la fois observer de la littérature populaire, de la littérature pour la jeunesse, pour les young adultes, hein, qui vont être utilisés non seulement à des fins d'éducation morale, mais d'éducation affective. On travaille là-dessus avec Sandra notamment, mais aussi dans un public qui va des hommes d'affaires stressés qui ont besoin de faire un break dans leur vie, jusqu'à l'EHPAD où on fait des ateliers de lecture pour permettre aux résidents de maintenir, de développer des capacités à la fois intérieures, de compréhension de l'existence et aussi relationnelles, hein, parce que cette lecture sur le soin, elle se fait à la fois par rapport à soi-même, mais elle se fait aussi souvent en relation avec des communautés de lecteurs avec lesquelles on met en partage, on en partage par les réseaux sociaux, notamment, ou par des espaces, des clubs de lecture qui sont beaucoup répandus. Donc voilà un petit peu les objets d'une partie de ma recherche. Alors, deux allusions, il se trouve que j'ai fait un petit peu de livres et d'articles sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, l'IA est peut-être vue comme une manière d'augmenter la capacité à lire, mais surtout à se raconter comme un outil d'augmentation expressive. Et c'est un phénomène qui m'intéresse aussi beaucoup.
Merci beaucoup, Alexandre. Je voudrais qu'on revienne un peu, que vous puissiez poursuivre votre propos les unes et les autres, qui est vraiment passionnant. Et Magali, je crois que c'est vraiment votre travail est très très important pour tout le monde ici. Et c'est aussi un travail qui est courageux, parce que très souvent, et je sais aussi qu'on aime pouvoir travailler sur les séries ou des films. Enfin, quand on parle de feel good movie, c'est jamais pour dire que c'est un chef-d'œuvre qui sera la cinémathèque.
Jamais.
Voilà. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut, et ça c'est une question qu'on a tous rencontrée, Alexandre et moi en particulier, comment est-ce qu'on peut effectivement vraiment affirmer que la littérature, la culture vont être aussi des outils pour se sentir bien, tout en gardant en fait aussi cette dimension magique de la culture. Donc je pense que vous avez dû beaucoup argumenter, donc je laisse en dire plus.
J'ai énormément argumenté, sachant que voilà, après on fait aussi ses armes, hein, on forge ses armes à coups d'attaque, et évidemment j'ai été énormément attaquée et encore cette semaine par deux jeunes masterantes qui veulent absolument démontrer à quel point la dark romance est épouvantable et qui sont venues assister à une de mes conférences donnée par leur enseignante, qui était un peu gênée pour le coup, parce qu'elles ne sont pas du tout venues m'écouter. Elles voulaient juste poser deux questions pour me mettre en difficulté. Elles ont passé une heure et demie juste à attendre le moment où elles allaient pouvoir poser ces questions. Et ça, je le retrouve régulièrement. Des gens qui n'essayent pas de savoir ce que fait la lecture au lectorat, mais qui essayent de projeter toujours ces fantasmes, alors de toxicité quand il s'agit de la dark romance, d'imbécilité ou de naïveté stupide, je vous passerai le nombre d'adjectifs qu'on peut mettre du feel good book, enfin de tous ces livres qui sont saisis par le lectorat pour en faire des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont lire de la dark romance parce qu'elles en ont besoin à un instant T, parce qu'elles ont besoin de régulation. Je dis elles parce qu'on est en grande majorité de filles, mais le lectorat masculin monte. Hein, on est à peu près à 20% dans les dernières estimations par rapport à la romance, la dark romance. Mais se saisissent de ces romans à des instants clés de leur vie quand elles, toujours, en lisent en masse. Et là, le phénomène, j'allais dire, de panique morale, de panique médiatique qu'on a vu dans les médias, a fait paniquer complètement les médiathécaires bibliothécaires. Donc c'est pour ça aussi que je suis invitée, enfin je fais le tour de la France, j'ai fait 16 000 km entre février et juin l'année dernière, dans toute la France, en plus de mes cours, t'imagines ce que ça peut donner, mais pour le coup, pour essayer de rassurer, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir, par exemple, une médiathécaire qui, à la fin d'une de mes conférences, qui est venue me voir avec les larmes aux yeux en me disant « Donc, si j'autorise des jeunes lectrices à lire de la romance, ou même des fois de la dark romance, donc en fonction de l'âge, hein, avec toutes les précautions requises, je ne les mets pas en danger, je ne risque pas de gâcher leur vie. » On en était là, à des niveaux de stress mais absolument démentiel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, le message commence un peu à passer, mais à coup de hachoir sur la tête que je me suis pris et que, mais qui à chaque fois me pousse dans mes retranchements, et à chaque fois je vais chercher des arguments, et à chaque fois je me dis, ok, est-ce que j'ai pas loupé une piste ? Donc finalement, c'est très bien, parce que c'est très bien. Je veux dire, oui, mais il faut quand même voir le bon côté des choses. C'est qu'à chaque fois qu'on m'objecte un argument pour lequel je n'ai pas immédiatement la réponse, je me dis, ah, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ? Ce qui fait que, par exemple, pour le cas de la dark romance, qui fait quand même couler beaucoup d'encre, mais c'est souvent du putaclic, enfin, vous connaissez peut-être le terme, juste pour faire du buzz, la réalité des choses est tout autre que celle que les médias ont bien voulu montrer, mais ça commence à bouger. Hein. D'ailleurs, des gens comme Juliette qui essayent de comprendre ce que font les lectures au lectorat plutôt autre que fantasmer, je vous parlais des effets délétères. Là, on se retrouve avec... moi, j'ai un petit truc que j'aime bien garder des trucs dans un coin de ma tête en me disant, ça, je laisse ouvert. Est-ce qu'à un moment, je vais me rendre compte que la dark romance peut faire du mal ? Pour l'instant, je ne l'ai jamais constaté. Là, je rencontre des élèves extrêmement régulièrement. J'ai encore deux classes. Je reviens dans la région parisienne la semaine prochaine dans un lycée de la Queue des Yvelines où là, je vais rencontrer plusieurs classes. Jusqu'à présent, le jeune lectorat ne me montre aucun signe de j'en fais quelque chose de mal ou ça me fait du mal de dire ça. D'ailleurs, il n'est pas stupide. J'avais une jeune de 14 ans, une de mes conférences en... une espèce de grande FNAC, un forum à Besançon, je voyais bien, elle avait envie d'avancer, mais elle n'osait pas. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu en as lu ? Moi, je les oriente pas, vraiment, j'essaie de neutraliser, je suis linguiste de formation, donc je neutralise à fond mes questions, juste pour ne pas induire une réponse ou une attente. Elle me dit, oui, j'ai commencé Borderline, alors c'est Borderline de Joss Keaton, qui est quand même un roman qui n'est pas pour une jeune fille de 14 ans. Elle me dit, je me suis arrêtée. Elle me dit, je me suis arrêtée page 14. Alors, ce qui est très intéressant, elle se rappelle toujours la page à laquelle elles se sont arrêtées. Je me suis arrêtée page 14. Je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, c'était pas pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui n'était pas pour toi ? Ah, j'ai tout de suite vu, c'était pas pour moi, madame. Ok, mais elle savait que c'était pas pour elle. Donc, il y a une forme de discernement qu'on ne veut pas reconnaître, jeune fille, par rapport à cette pratique. Et le nombre de jeunes qui disent, oh, moi, madame, je lis pour pleurer. Alors, au début, on se demande, mais pourquoi ? Elles adorent, mais moi j'adore pleurer. Donc en fait, elles vont sur TikTok, elles vont repérer les romances où des jeunes influenceuses se filment en train de pleurer pour retrouver ces passages et pour pleurer. Et d'ailleurs, les influenceuses, alors c'est souvent des filles qui ont essayé, c'est très rare, mais qui ont essayé de faire des larmes de crocodile juste pour faire de la vue. Hein, ça marche pas. Elles sont tout à fait capables de voir si les larmes sont sincères ou pas. Et en fait, on se rend très vite compte que ce besoin de pleurer, c'est aussi dans cette espèce de régulateur émotionnel dont elles ont besoin. On est dans une société du tout émotionnel. L'ado bashing, le jeune bashing, il n'y a que ça. On leur dit qu'ils n'ont pas d'avenir, on leur dit que la guerre est à nos portes, on leur dit que leur planète est en train de cramer, on leur dit qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils sont complètement stupides, qu'ils ne feront jamais rien de leur dix doigts. Enfin bon, bref, vous avez compris, je vais m'arrêter là. Il est évident que cette génération en devenir et cette génération qui est déjà là a besoin d'aller chercher ailleurs cette régulation émotionnelle. Et là, ça marche extrêmement bien.
Oui, merci beaucoup, hein. C'est très, très important en effet. Et Agathe aussi, je pense, va nous dire comment ce qu'elle fait découvrir sur les publics, sur leurs pratiques, va aussi très révélateur. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à calmer les angoisses des bibliothécaires, on va leur demander. Mais en tout cas, ça peut être vraiment ce que si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus.
Oui, alors pour l'angoisse des bibliothécaires et des médiathécaires, on la voit aussi à l'Observatoire. Donc nous, notre public principal de l'Observatoire, c'est les professionnels. Et c'est accompagner les professionnels dans leur mission. Sur l'exemple de la Dark Room, bon, je pense que la Dark Room, c'était le plus flagrant. Après, il y a d'autres sujets. Donc on a fait un webinaire sur la Dark Romance fin 2024. C'était le plus. En fait, on a dû à un moment fermer les inscriptions. On avait 1100 inscrits, ce qui a battu absolument tous les records. Et on s'est dit, au bout d'un moment, on peut pas.
On peut pas modérer 1100 personnes.
Non. Moi, je n'étais pas rassurée avant ce webinaire par rapport à la modération. Bon, finalement, ça s'est très bien passé. Tout le monde était très ouvert au sujet, en fait. Et les personnes qui viennent à nos webinaires sont pas forcément comme ces étudiantes qui sont venues pour... En fait, la plupart des personnes viennent parce qu'elles sont vraiment curieuses de savoir, d'en savoir plus sur la question. Sur la Dark Romance, c'était le cas sur l'intelligence artificielle aussi, où j'étais pas non plus 100% rassurée. Donc il y a une vraie inquiétude, mais il y a une vraie aussi volonté de mieux comprendre les jeunes. Et nous, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de... déjà, au niveau de l'Observatoire, donc tout le monde... Effectivement, il y a un peu ce truc de la lecture comme le soin ou la bibliothérapie, c'est encore maintenant vu comme quelque chose d'un petit peu lunaire, alors que tout le monde est d'accord sur le fait que les gens devraient lire plus, et notamment les jeunes. C'est un peu le slogan qu'on voit partout. Nous, évidemment, on en est convaincus. Après, on a tendance à un peu moins s'arrêter sur cet aspect de « les jeunes ne lisent plus ». On essaye de comprendre comment les jeunes lisent. Et en fait, les jeunes lisent encore beaucoup. Mais effectivement, comme le disait Magali, il y a énormément de jugements sur le type de lecture qu'elles ont ou le format de lecture. Donc là, on est en plein débat, parce qu'on est sur une journée démocratie, on est en plein débat sur l'interdiction des réseaux sociaux. On va pas non plus prendre, on va pas dire c'est les réseaux sociaux, c'est bien, c'est mal. Le débat est beaucoup plus nuancé que ça. Par rapport à la lecture, il y a deux choses. Il y a une première chose, effectivement, qui est que là, maintenant, la lecture, surtout au niveau des jeunes, est beaucoup moins solitaire. La lecture est sociale, et la lecture passe notamment par les réseaux sociaux. Donc, Magali t'en faisait un exemple. Il y a des vraies communautés de lecture qui se montent sur les réseaux sociaux, beaucoup pour des jeunes aussi qui peuvent pas non plus trouver ces réseaux-là dans leur vie réelle, parce qu'ils sont isolés, socialement, géographiquement. Donc ils trouvent sur Internet ce qu'ils n'ont pas dans la vie réelle, parce que des clubs de lecture ado, il n'y en a pas partout. Ça se monte de plus en plus, mais il n'y en a pas partout. Donc couper maintenant les réseaux sociaux, ça les coupe de cette forme de sociabilisation sur Instagram, sur TikTok. Ça, c'est la première chose. Et puis, ils vont aussi trouver beaucoup de recommandations sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont sur les réseaux sociaux pour trouver de la lecture. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jugements de ce qu'ils et elles lisent. On leur dit constamment qu'ils lisent pas, que ce qu'ils lisent, c'est pas bien. Et ça, notamment, c'est ressorti. Il y a le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation qui ont fait des états généraux pour la lecture de la littérature de jeunesse, où il y a eu énormément d'entretiens avec des professionnels, des jeunes, des parents, voilà. Donc je vous invite à aller regarder les résultats, c'est assez éclairant. Il y a une chose qui ressort de ça, c'est qu'il y a un fossé assez fort entre ce que disent les jeunes de la lecture et ce que disent les adultes, avec quand même beaucoup de jugements de la part des adultes sur la lecture des jeunes. Ça donne un petit peu la réponse que c'est pas parce qu'on va leur enlever les écrans que d'un coup ils vont se mettre à lire un livre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a aussi toute une problématique au niveau de l'école où en fait, ce qui ressort un petit peu, c'est qu'il faut développer la lecture plaisir chez les adolescents, enfin chez les jeunes, mais les adolescents notamment, et que imposer de la lecture, ça marche pas forcément très bien. voilà. Donc l'idée, c'est quand même de comprendre qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ça leur fait du bien, et de partir de leur pratique. Voilà.
Vraiment, merci beaucoup, hein, c'est passionnant. On va en parler un petit peu plus peut-être, justement, de ce qui se passe sur les réseaux, sur TikTok, sur les systèmes de recommandation nouveaux. Hein. Donc des livres, et puis comment ça se passe dans l'intégration des textes, dans les formats audiovisuels. Donc, Juliette, peut-être
complètement. Plus là-dessus. Je vous rejoins totalement toutes les deux. Sur le côté social, c'est vrai qu'en fait, sur TikTok, on a vu apparaître le BookTok. C'est une sous-communauté donc de lecteurs, comme un club de lecture virtuelle, et en fait qui ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait voir avant avec les gamers ou les gens qui, eux aussi, peuvent toujours, en tout cas, très insérés socialement, se retrouver sur des réseaux Discord pour partager leur loisir qui était le jeu vidéo. Et c'est à peu près la même chose qui se passe avec la lecture et le BookTok. Et c'est vrai que si on passe deux minutes, c'est là aussi où je te rejoins, Magali, on va trouver des jeunes filles qui, effectivement, conseillent des lectures pour faire pleurer et pour ressentir des émotions fortes. Et c'est pas propre à la lecture. Le cinéma, c'est la même chose. Et même si on remonte un peu plus loin, la tragédie grecque, c'est complètement ça. Et sans vouloir non plus faire un parallèle qui n'aurait pas lieu d'être, on peut quand même penser à Aristote et à sa théorie de l'art cathartique et de la tragédie qui nous permet de purger nos passions. Et c'est aussi ça ce qui se passe avec des livres dans lesquels il se passe beaucoup de drames et de tragédies. Et du coup, ça fait du bien en soi parce qu'elles les ont vécues. Et du coup, elles les mettent à distance, soit parce qu'elles ne les ont pas vécues, et du coup, ça fait une expérience sans non plus aller vers le retranscrire dans leur vie. Ça reste de la fiction, et je pense qu'effectivement, je te rejoins sur, on ne fait pas assez confiance aux jeunes filles, particulièrement, sur le fait de mener une vie saine, et de ne pas copier-coller des schémas dont elle n'aurait pas envie. Sur ça, moi je pense que c'était intéressant.
Merci beaucoup, Juliette, je crois que c'est très très important. Ça, et au plan de la démocratie, justement, comme vous dites tous, il faut faire confiance aux jeunes, comme il faut faire confiance aux citoyens aussi, ne pas constamment considérer qu'ils vont être intoxiqués. Ou...
Oui, leur faire confiance un peu plus en étant là pour les guider si besoin.
Merci. Donc, Alexandre, peut-être tu peux nous en dire plus justement sur ce qui se passe sur les réseaux et puis sur cette question démocratique plus généralement.
Pour revenir sur les notions qui ont commencé à circuler, le grand débat effectivement porte sur les effets de la lecture. Est-ce que la lecture nous pousse à imiter les conduites qu'on est en train de ressentir lorsqu'on est immergé dans un livre ? Ça, c'est la grande théorie très inquiète qui fait qu'on a mis Flaubert en 1857 en procès en disant que Madame Bovary elle-même tombait amoureuse parce qu'elle lisait des romans d'amour infantile, et que donc en lisant Madame Bovary, on allait se livrer à l'adultère dans un monde bourgeois qui l'aurait prouvé. Ça, c'est une première hypothèse, et elle reste très très active. Hein. C'est l'idée d'une lecture par imitation, dans laquelle on va mécaniquement se mettre à reproduire ce qu'on voit. L'autre théorie alternative, c'est la théorie de la catharsis. Hein. Donc l'idée qu'au contraire, c'est très bien la lecture parce que ça va nous permettre de nous débarrasser des affects encombrants, des pulsions qui nous paralysent, nous permettent d'épuiser notre sens de la pitié. Hein. La catharsis, c'est la terreur à la pitié. Donc à la fois d'avoir peur et d'être empathique et de ce point de vue-là, de développer non pas seulement un plaisir de pleurer ou un plaisir d'avoir peur, mais des capacités à faire face à nos émotions, à nous éduquer à l'affectivité. Et donc c'est autour de cette polarité, de cette contradiction que tournent les discours avec d'autres concepts qui ont été mobilisés, par exemple celui d'immunisation. Non seulement avec la catharsis, on pourrait éviter ou se purger des émotions trop fortes, mais on pourrait apprendre à s'immuniser un petit peu comme quand on est vacciné, on va se méfier, notre système immunitaire va se méfier du virus et va s'en débarrasser. Et effectivement, on pourrait dire que la dark romance est une manière de ne pas céder à la tentation de reproduire la dark romance, elle va nous immuniser. On va pouvoir la vivre fantasmatiquement, on va pouvoir en jouer fantasmatiquement, mais on en sera immunisé. Donc c'est tout autour de ces descriptions, de ces débats que tournent les choses, sans en réalité qu'il y ait vraiment beaucoup de preuves expérimentales, d'études vraiment complexes sur ce que réellement la lecture peut faire. Je crois qu'il y a un vrai besoin en fait d'études longitudinales, de travaux importants sur les effets potentiels de la lecture. C'est quelque chose qu'on trouve dans les témoignages de lecteurs. Hein. On trouve ça à foison sur Babelio, on trouve ça dans la conversation. Peut aussi l'isoler parfois dans certains contextes médicaux, certaines expériences ont été faites, etc. Mais on manque en fait d'études et peut-être que Icar pourra accompagner ce type de travaux. Alors vous évoquiez la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un espace qui est désormais beaucoup stigmatisé hein, comme lieu de silo, de radicalisation qui vous renforcerait dans vos pires travers idéologiques. Il n'en demeure pas moins que des plateformes de lecteurs comme Goodreads aux États-Unis ou Babelio, des espaces d'échange critique, tout simplement les commentaires sur Amazon, des espaces de commentaires qui intègrent à la fois l'écriture et le commentaire comme Wattpad, sont d'extraordinaires ateliers d'élaboration démocratique, de savoir partagé, de goût qui vont être mutualisés, qui vont circuler avec des modes de régulation, d'échange que les lecteurs sont capables d'inventer eux-mêmes. Alors bien sûr, il y a la dimension des plateformes qui vont prescrire un certain type d'échange, hein, comme Babelio, mais les lecteurs ont une agentivité qui leur permet d'inventer des manières de communiquer et puis parfois de prolonger dans la vie réelle, enfin, en tout cas dans la vie matérielle, des échanges lectoriaux qu'ils ont menés en ligne. Donc ce sont des phénomènes qui sont tout à fait apportés crédit aux capacités d'auto-organisation des lecteurs. Vous les voyez aussi dans des plateformes comme les plateformes de fanfiction, qui sont tout à fait assez extraordinaires. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant d'écriture, je le redis aujourd'hui, il est difficile d'isoler ce qui serait un lecteur passif de quelqu'un qui écrirait et se contenterait d'écrire. Des plateformes comme Wattpad intègrent fortement les deux. Le lecteur partage souvent des essais d'écriture. Celui qui écrit ou qui a publié est un commentateur équipé du travail des autres par son propre travail d'écriture. Et donc je crois que c'est un phénomène tout à fait notable et mes collègues pourront en reparler, que ce mélange finalement des fonctions, il n'y a plus de lecteur passif, hein, c'est fini, et il n'y a plus d'écrivain isolé. Et donc je crois que c'est aussi un phénomène très très notable.
Merci Alexandre. Effectivement, Alexandre a pris en main la table ronde puisque le prochain sujet qu'on voudrait effectivement, sur lequel on voudrait vous entendre, c'est comment est-ce qu'on va passer de la lecture à l'écriture, hein, puisque le thème de cette journée, c'est aussi cet empowerment, empouvoirement des jeunes, moins jeunes aussi, pour écrire à travers justement la lecture ou pas. Donc si vous avez envie de dire quelques mots là-dessus, ça serait
pas sûrement très intéressant. Enfin, sur l'idée de la fanfiction, c'est-à-dire que la fanfiction, c'est plus du tout un travail isolé, en effet, et c'est un travail collaboratif où un lecteur ou une lectrice, ou plutôt des lectrices encore une fois, mais aussi ça peut être suite à des séries télé qu'on aime, enfin, éprouve soit un manque, soit une frustration, a envie d'ajouter quelque chose. On propose sur une plateforme collaborative, souvent Wattpad, un écrit. Des gens qui sont, par exemple, Jane Austen a toujours le vent en poupe, et pour le coup, on propose par exemple des fanfictions d'Orgueil et Préjugés, il y en a pléthore, alors qui ne vont pas encore dépasser le nombre de fanfictions de Harry Potter qui était déjà 23 millions il y a 7 ou 8 ans, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Mais vous écrivez cette suite, des gens commandent cette suite en disant « Ouais, moi j'aime pas ce que tu as fait de l'héroïne, je n'aime pas ce que tu as fait de Darcy, je n'aime pas ci. » Donc en fait, souvent, le lectorat qui est devenu auteur va faire des modifications suite aux commentaires des personnes qui le lisent. Finalement, ça devient un processus circulaire et d'écriture collaborative. Et là, on se retrouve en fait avec des personnes qui sont ensuite publiées. Donc, Wattpad, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein, on voit aujourd'hui beaucoup de, souvent les dark romances, mais pas que, la romantaisie et d'autres genres qui passent l'édition papier. Mais dans un premier lieu, c'est cette écriture collaborative pour laquelle on se saisit d'un élément ou d'un univers qu'on a envie de prolonger, d'amender, de modifier, de prendre en main en tout cas, et pour lequel d'autres personnes ont collaboré. Donc le lecteur isolé, en effet, il n'existe plus. Et puis il y a TikTok, il y a BookTok. Enfin, quand j'ai lu, j'ai envie de dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. J'ai envie de partager avec les autres, j'ai envie de débattre et puis de dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Il est très rare qu'on ait des gens maintenant qui soient isolés dans leur chambre en train de lire, comme nous on a peut-être pu le faire, hormis les clubs de lecture dans les collèges, dans les lycées, dans les médiathèques, bibliothèques, poussent comme des champignons à la demande du jeune lectorat. Donc cette impression que les jeunes sont qu'entre eux et puis que finalement, en fait, ils ont besoin de reproduire dans la vie réelle ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. On prend par exemple l'essor absolument dingue des librairies spécialisées en romance. Il y en a dans toutes les villes ou presque. J'ai eu la chance, je pense qu'elle est là, Aya, je ne l'ai pas vue, d'être la semaine où elle a ouvert sa librairie à Lille. J'étais à Lille, à la médiathèque de Lille cette semaine-là. Mais les gens ont besoin de discuter en chair et en os des mêmes choses, des mêmes sujets dont ils discutent sur les réseaux sociaux.
Oui, alors je voulais juste rebondir rapidement sur la fanfiction, parce que c'est en train de vivre une sacrée transformation. En fait, effectivement, alors la lecture et l'écriture est très sociale. La fanfiction est en train de se démocratiser, et c'est vrai qu'avant c'était une niche quand même, avec les jeunes qui pouvaient trouver d'autres plateformes, les réseaux sociaux. Là, la fanfiction se popularise de plus en plus, avec effectivement le pipeline vers l'édition traditionnelle, moi je trouve ça un petit peu inquiétant, parce que du coup ça donne un aspect de commercialisation à quelque chose qui était gratuit et qui était purement créatif, mais ça c'est un autre sujet. Et puis la fanfiction était aussi et reste quand même encore un lieu où se retrouvent des personnes qui sont parfois un petit peu stigmatisées sur d'autres réseaux, notamment la communauté LGBTQIA+, et il y a beaucoup aussi de personnes neuroatypiques qui se retrouvent sur les sites de fanfiction, et effectivement qui créent ensemble une œuvre via commentaire. Et d'ailleurs, il y a toute une... maintenant, avec les fanfictions qui deviennent plus populaires, il y a aussi un peu un backlash de ça, avec beaucoup de créateurs et créatrices qui se plaignent du fait que de plus en plus de personnes sont spectatrices de la fanfiction et pas forcément dans un processus de commentaires, alors que les commentaires sont vraiment la force, le moteur de la fanfiction. Les créateurs et créatrices sont constamment en demande de commentaires, pas forcément d'approbation, mais de commentaires. pour avancer. Et parfois, il y a même des fictions qui sont juste arrêtées parce que, bah, comme il n'y avait pas de commentaires, on avait l'impression que ça n'intéressait pas. Et donc, on a arrêté d'écrire. Donc là, c'était la première chose. Et je crois que j'ai un peu oublié ce que je voulais dire par la suite. Ah oui, pour l'écriture. Du coup, nous, au niveau de l'association, c'est vraiment lié. Donc, tous nos projets de terrain ont un aspect d'écriture. On a aussi mené une enquête en 2023, je crois, sur l'écriture des jeunes. Donc, je vous invite aussi à la consulter, où bah, c'était un petit peu pareil que la lecture, c'était identifier un petit peu d'autres modes d'écriture. Alors depuis, il y a eu le bond de l'intelligence artificielle, donc il faudrait presque refaire cette enquête, parce que je pense qu'on y rajouterait le pendant de l'intelligence artificielle, où du coup, c'est quand même leur mode d'échange principal avec l'IA, c'est la lecture et l'écriture. Et où il y a des vrais échanges avec l'intelligence artificielle, notamment sur des questions de santé mentale. Donc il y a des enquêtes qui sont sorties en Europe, aux États-Unis, sur la propension des jeunes à utiliser l'IA pour parler des questions de santé mentale. Et c'est de plus en plus, et ça c'est lié à ce qu'on disait, du fait que bah, voilà, on demande aux jeunes de plus en plus de choses, les jeunes sont de plus en plus inquiets, et ont trouvé dans l'IA une oreille attentive et qui ne les critique jamais. Voilà.
Merci beaucoup.
Nathie aussi, je sais que vous connaissez bien ce phénomène.
Oui, complètement. Et en parallèle même de l'IA, on a quand même un retour au journaling et au... J'ai plus le mot. Dans quoi on raconte sa vie le soir. Voilà, un journal intime, en fait, tout simplement. Et on a un gros retour de ça en ce moment. Alors, c'est pas forcément de l'écriture d'une fiction, mais c'est quand même, pour le coup, de l'écriture soignante et encore là, du care. Clairement, ça va là-dedans. Et le journaling, je pense aussi complètement, qui revient pareil en masse. Alors là, encore une fois, visible par les réseaux sociaux, mais bon, je pense que bon, les réseaux sociaux ne font que montrer ce qui se passe aussi dans la vie des jeunes générations. Et pour revenir sur le côté social, c'est vrai que tout à l'heure je parlais d'une sous-communauté, mais en fait, notamment l'influenceuse dont je vous parlais qui recommande ses lectures, qui font pleurer, elle est suivie par presque un million de personnes sur TikTok, quand même. Ce qui est plus vraiment du coup une sous-communauté et un flux aussi vers des gens qui pourraient ne pas forcément être des gros lecteurs ou quoi. L'influence elle est plus grande et elle est vraiment sociale, ne serait-ce que parce que on montre ce qu'on lit. Alors ça c'est vrai que c'est une autre tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On fait le recap de ses lectures du mois. Alors il y a presque un aspect un peu performatif quand même, mais qui existait je pense avant d'une autre manière avec la littérature, avec les bibliothèques, qui allait avec un certain voilà, statut social et légitimité. Mais c'est vrai que voilà, il faut montrer les livres qu'on a lus, en tout cas il ne faut pas, mais c'est fait, les livres qu'on a lus dans le mois. Voilà. Mais du coup, il y a vraiment un aspect social à 100%. Quoi.
Merci beaucoup. Alexandre, tu veux ajouter quelque chose
ou... Oui, c'est très étonnant parce qu'en fait la littérature sort du livre, elle est dans les conduites sociales, elle est dans les pratiques d'échange, elle est dans la performance de son émotion par rapport au livre, hein. C'est très, très fin ce que vous notez, et elle est dans la performativité de la pile de livres, hein, qu'on a après qu'on va l'épiler au fur et à mesure pour montrer en fin de mois combien on a lu. Elle est maintenant dans nos tablettes qui nous donnent nos performances de lecture. Et effectivement, on peut être un petit peu vigilant, voire un petit peu agacé à l'idée que dans un système néolibéral où tout est mesuré, tout est quantifié, tout est rendu visible par des formes d'existence qui sont l'immédiateté du réseau social, la partie la plus intime, la plus secrète, la plus silencieuse, la moins quantifiable de notre expérience au monde, le fait que nous nous arrêtions de vivre pour lire de la poésie ou que nous endormions avec une page d'Annie Ernaux ou qui vous voulez, tout ça devient l'objet effectivement d'une métrique, d'un show, lequel lui-même est optimisé pour donner des revenus à ce lecteur amateur professionnalisé qui est le TikTok, l'influenceur TikTok ou le booktuber. Donc il y a effectivement toute une série d'interrogations qui se lèvent lorsqu'on on bascule dans ce type de rapport à la lecture qui était tout au contraire un phénomène non visible, un phénomène discret, un phénomène peu documenté dans l'histoire de la culture, parfois mythifié, parfois peint par les grands artistes, mais en tout cas qui n'avait pas cette dimension théâtralisée qu'elle a aujourd'hui.
Merci beaucoup Alexandre, je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi dans la salle, je suis désolée qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais on a eu, c'est une telle richesse de contenu aussi, voilà, c'était formidable de vous entendre, donc avez-vous des questions?
Vous parlez comme d'une évidence de la romance et de la carte romance.
Oui.
Oui. Oui.
Moi, c'est Désiré.
Ah, oui, oui. Alors, pour le coup, la romance, ça ne vous dit rien? La romance, juste la romance, le roman sentimental.
Oui, bien sûr.
Ok. Donc, en fait, la dark romance et la romance, c'est l'évolution du roman sentimental. Par exemple, Harlequin, nous deux, tout ça, ça vous parle un petit peu. Donc, dans les années 2010, est arrivé un énorme phénomène qui s'appelle 50 nuances de Grey, si on avait entendu parler. Et là, le tournant était là, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des pavés de 400-500 pages, avec des scènes de sexe explicites, ce que la romance jusqu'à présent laissait vraiment à la marge, les scènes de sexe n'étaient pas très explicites. Et puis, le genre s'est diversifié en romantésie, donc c'est hybridé avec l'heroic fantasy, donc ça devient de la romantésie, c'est hybridé avec plein d'autres sous-genres. Et puis on a la dark romance, qui est un phénomène qui est l'héritier direct des chroniques Facebook, hein, c'est pas récent, ça a une dizaine d'années, où là, en fait, sachant que les autrices, les éditeurs, les éditrices, les lecteurs et lectrices ne sont pas d'accord avec ce qu'est une dark romance, en fait, à un moment, j'ai statué. C'est une romance entre deux personnes, et à un moment, il y a une rupture de consentement dans un univers malsain ou sombre. Donc en fait, ça peut prendre toutes les formes possibles. Donc la dark romance, ça peut aller très loin. Il y a des scènes, alors parfois c'est des scènes de violence verbale, mais ça peut aller jusqu'à des scènes de violence sexuelle et physique. Des fois, ça peut aller très loin. Donc en fait, c'est un genre qui fait très peur. Non, justement, la peur qu'ont beaucoup de personnes, que ça tournerait à cela. En revanche, dans les faits, souvent, les lectrices que j'ai rencontrées, et surtout les autrices que j'ai rencontrées, quand elles écrivent ce genre de choses, c'est pour mettre à distance parfois des choses qu'elles ont vécues. Par exemple, là, si on prend Sophie Jomin, qui a expliqué dimanche, journée internationale des droits des femmes, pour les droits des femmes, qu'en fait, elle a commencé à écrire de la romance aussi parce qu'elle a été maltraitée. Et à un moment, c'était pour elle aussi, dans le catharsis. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un moyen dont s'emparent, je dis des femmes parce que c'est principalement des femmes, nombre de femmes, pour essayer de tenir à distance ou d'évacuer ou de montrer au monde, mais sans se mettre dans la plainte, ce qui peut se passer. Et le jeune lectorat en fait exactement ce qu'on pense qu'il en fait quand on a un peu de discernement. Elles font des listes de red flags. Les red flags, c'est les drapeaux rouges du consentement, c'est-à-dire un homme qui vous regarde avec avidité, c'est pas tout à fait normal. Un mec qui vous prend par le poignet pour vous faire sortir à vous répondre votre envie de sortir, c'est un red flag, donc un drapeau rouge du consentement. D'ailleurs, le jeune lectorat, pour information, est en train de revoir, à l'aune de ce mouvement post-MeToo, Parce que les jeunes qui lisent aujourd'hui, elles avaient 6-7 ans. Hein, MeToo, elles ont grandi avec la notion de consentement, c'est pas leur combat. En fait, elles sont en train de revoir nos classiques. Et elles disent à leur prof de français, non mais Julien Sorel, madame, il se pose là comme toxique. Alors voilà. Et pour le coup, les profs et d'autres sont très déstabilisés. Quand on dit, non mais Britannicus, non mais vous avez vu le toxique que c'est ? Bah oui, bah, elles sont en train de revoir. Il faut quand même savoir que dans la littérature classique, il n'y a que les hommes qui avaient construit l'émotionnel des femmes. Et, Alexandre parlait tout à l'heure de Flaubert, il a quand même été condamné pour outrage moral. Il s'en est jamais remis hein, après avoir écrit Madame Bovary. Et on se retrouve là, mais depuis Jane Austen, d'un coup, quand une femme commence à décrire et à écrire les femmes, d'un coup elles sont fortes, elles ont du caractère, elles ne sont plus ces petites choses naïves. Intéressant. Donc là, les femmes reprennent le pouvoir sur ce qu'une femme peut faire, peut dire, peut vivre, et puis elles ont envie aussi de montrer au monde ce qui nous arrive dès qu'on est dans la rue, nous, enfin, je ne parle peut-être pas au nom de toutes les femmes, je ne me permettrai pas, mais en tout cas, on a l'impression que dès qu'on est dans l'espace public, on peut être une proie. Et c'est plutôt extrêmement dérangeant. Donc je pense qu'il y a une espèce aussi de mouvement qui passe par ce genre. Voilà, j'espère avoir répondu un peu à votre question.
Oui. Merci. Non, s'il vous plaît, c'est pas une conversation à deux, donc il y a peut-être d'autres questions. Très gentil. Ah oui, monsieur ?
Oui, je voulais revenir sur le fait que la lecture était donc de la sphère de l'intime, d'après ce que jusqu'à maintenant. Enfin, mais en même temps, il y a quand même toujours eu un étalage des lectures, pas de ce qu'on a lu. Et tout à l'heure, j'ai entendu le terme l'épine de livre. Et ce fait d'étaler ce qu'on a lu, au moins dans la sphère privée, ça a quand même toujours existé. Quoi. Simplement, maintenant, on a un moyen qu'on n'avait pas avant, avec les réseaux sociaux et tout ça. Et d'ailleurs, je crois que, pour ce qui est des piles de livres, il y avait un terme « tsundoku » qui signifiait que, voilà, on a chez soi plein de livres qu'on n'a pas encore le temps de lire, mais que, là, on va lire. Mais j'ai l'impression, cela dit, enfin, moi, je n'ai pas regardé sur TikTok cette histoire d'influenceuse qui montre dans tous les livres, c'est ça ? Mais c'est sans doute pas dans le même esprit. Non, là, c'est pour faire, enfin, pour montrer quoi ? Pour montrer que ce qui est. C'est pas dans. Je pense que c'est pas effectivement dans le même esprit d'étaler sa culture. C'est pour faire vendre, quoi, tout simplement. Pour, je sais pas.
Alors oui, pardon. Alors il y a effectivement un aspect performatif. La pile à lire, alors il y a deux choses. Le tsundoku, ça va être le fait que maintenant acheter des livres et lire des livres, c'est pas forcément le même hobby. Et donc il y a aussi cet effet vraiment de consumérisme de la lecture avec des piles à lire qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de bilans de lecture. Donc, voilà ce que j'ai lu dans le mois, voilà ce que j'ai aimé, pas aimé, souvent dans des formats assez rapides, mais pas forcément, ça peut être des vidéos qui sont très longues. Donc il y a différents formats selon différents influenceurs qui vont toucher différentes audiences. Et puis il y a quand même un aspect assez performatif. Donc effectivement, avant c'était sur la table du salon. Maintenant il y a des audiences qui peuvent être très très élevées. Et puis le livre, le type de lecture est vraiment un marqueur presque politique. Alors on est sur une journée démocratie. Il y a beaucoup de débats politiques maintenant en ligne qui se font. Avec comme point de départ la lecture, notamment le conflit israélo-palestinien, avec vraiment deux teams selon des personnes qui estiment que certains auteurs ou autrices sont sionistes et donc sont blacklistés, versus des personnes qui sont pas dans ce camp-là et qui vont. Il y a ce type de débat. Il y a aussi tout le débat avec J.K. Rowling et ses opinions sur les personnes trans, où du coup, pareil, ça va complètement splitter l'audience sur des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais du coup, dont le livre et la littérature est le point de départ.
Oui, ça, c'est performatif dans le sens où c'est la monstration de ces lectures. Après, moi, je vous rejoins sur le côté de avant-ci, une bibliothèque bien remplie, c'était quelque chose de valorisé et de valorisant. Mais c'est vrai que du coup, la lecture prend le pli. en fait des réseaux sociaux et suit du coup les codes. D'ailleurs, on assiste à des challenges aussi de lecture, de lire par exemple. Il y a un challenge qui circulait beaucoup, alors ça ne concernait pas que la lecture, mais dedans, c'était surtout un challenge sportif, mais dedans il fallait lire 10 pages par jour. Donc en fait, ça suit les codes des réseaux sociaux qui marchent beaucoup par challenge, par défi. Et la lecture qui est prise par les jeunes générations s'adapte à ça.
Merci beaucoup. Peut-être une dernière question.
Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, je me posais une question. Alors, merci pour toutes vos présentations. Ça permet aussi de relâcher un peu la prévention qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais quand même, enfin, on a vu dans certaines librairies la rubrique développement personnel se confondre parfois même avec la philo. Moi, je trouve que cette déhiérarchisation, elle est excellente. Tout simplement, il y a quand même peut-être une question. C'est, et ça va dans le droit fil de ce qui a été dit sur le rapport consumériste. Alors, en même temps, être consumériste avec les livres, pourquoi pas. Il y a les problèmes d'édition maintenant. Il y a des éditeurs dont on sait bien quel type d'idéologie représente. Donc, et c'est cela qui domine beaucoup dans la circulation publicitaire, il faut dire. Et donc, à mon avis, la question, ça devient aussi comment cette participation, cette activité, elle peut être dans tous les genres, inventive, c'est-à-dire pas formatée, et comment est-ce qu'on peut arriver à comment dire, parce qu'il y a de l'inventivité, mais comment la rendre plus intense, je dirais, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses formatées. Alors, on commence par le format, toujours CV, ça permet de démarrer, mais c'est un peu la question que je pose quand même sur care, développement personnel, c'est pas toujours ça peut se confondre parfois et de façon dommageable.
Alors, le CARE, ce n'est pas du tout le développement personnel, mais ça, c'est une autre conversation.
J'ai peut-être un élément de réponse, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais la réception des romans, quels qu'ils soient, dépend vraisemblablement beaucoup de votre parcours de lecteur ou de lectrice. C'est-à-dire que pour certaines personnes, certains feel-good vont être des romans de développement personnel, et pour d'autres, ce ne seront que des feel-good. Donc en fait, c'est cette histoire aussi de genre, de réception par le genre. Je vous donne un exemple vraiment emblématique. J'ai fait une énorme enquête sur 59 degrés qui a duré 4 ans et demi. À un moment, on ne savait pas nommer le genre. Donc j'ai demandé au lectorat qui m'avait répondu, 1667 personnes, de me donner un nom. Les médias avaient appelé ça du mommy porn. Alors à la faveur d'une mauvaise interprétation, ça faisait du porno pour mommy quand même. Quand il y avait une mauvaise traduction dans les médias. Et on m'a dit, érotique hard, pornographie, halo de rose, Martine découvre son corps. Pour le même bouquin. Donc, à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut être aussi conscient que le lectorat, au-delà des normes imposées par les éditeurs et parce qu'il faut bien classer, des choses, il faut bien les mettre dans les rayonnages, il faut bien qu'ils soient identifiables, dépend aussi de la réception qu'on en a. Et c'est aussi quelque chose, j'allais dire, très franco-français, où on a la notion de grande littérature, d'infra, sous-para. Mais par exemple, au Canada, quand 59 degrés est sorti, j'ai eu la chance d'être à Montréal et j'aurais demandé, mais vous le classez où? En France, on ne sait pas où le mettre, dans les librairies et dans les bibliothèques. Il dit, à côté du théâtre. Puis à côté du théâtre, on dit, ouais. Et puis les gens, ils demandent où il est. On a dit, nous, à côté du théâtre. Et puis au bout d'une semaine, tout le monde sait que c'est à côté du théâtre. Et parce que les ovnis dont on ne sait pas encore où les mettre, ben en fait, mais vous parlez des tropes, en fait, vous voudriez quelque chose qui soit un peu plus différent, enfin, qui sorte un peu. J'ai bien compris, mais en fait, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. Pour l'instant, on est dans l'idée, les tropes, c'est des choses qui plaisent. Les gens sont dans la recherche du même, le même avec un accent grave, hein, de la mémétique, de la mimésis. Et c'est ça qui fait du bien aujourd'hui, parce que quand on retrouve le même dans des choses variantes, c'est rassurant. Et on est dans une société où on a besoin d'être extrêmement rassuré. Donc moi, je ne suis pas du tout étonnée que ça passe aussi par la littérature, qui est dans cette idée de même, de mimésis, de mémétique, rassurante. Et puis, quand ça ira mieux, il y aura à nouveau des choses qui vont sortir du lot. Je comprends votre frustration, Mais je pense. Enfin, non, mais il y a une vraie frustration hein, de plein de gens. Je pense qu'elle est intéressante, quoi. Aussi à explorer, parce qu'elle dit quelque chose de notre société.
Alexandre. Non, juste pour dire qu'on peut quand même nuancer l'opposition entre une littérature totalement instrumentale qui serait dans des rayons de feel good movie et le feel good book, c'est une littérature qui va en déjouer, en contester les codes. Vous avez toute une série d'auteurs qui ont connu des succès, des usages personnels majeurs. Je pense par exemple au roman de MeToo, ou au texte d'Annie Ernaux qu'ils ont précédé, ou de Dango, etc., qui sont des textes qu'on parfois on peut appeler middle prose, c'est-à-dire intermédiaire entre la littérature restreinte et la littérature à grand public. Par ailleurs, vous verrez souvent dans Babelio des gens faire des usages tout à fait singuliers, très, très personnels, d'œuvres qualifiées d'extrêmement exigeantes. Donc je pense qu'il faut, peut-être ne pas se laisser effrayer par l'invasion des ouvrages de développement personnel et des ouvrages à grand tirage. D'abord, certains sont très bons, mettent en scène des complexités. Il y a des choses intéressantes dans 59 degrés. Et par ailleurs, ça n'interdit pas au lecteur de s'emparer de choses qui vont être peut-être un petit peu plus côté dans l'imaginaire. Donc, soyons attentifs à ne pas construire un champ un peu manichéen de ce qui serait souhaitable et ce qui ne serait pas souhaitable.
Merci Alexandre pour cette conclusion optimiste et modérée.